franceinter.fr.
À 13h30, bien sûr, sur France Inter, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Patrick Boyer.
Aujourd'hui, vous êtes contre-révolutionnaire.
Ben oui, vous parliez de l'amour de la radio. Nous, on va parler du désamour de la révolution.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La contre-révolution en France. Quand on demandait au Premier ministre de Mao, Chuen Lai, combien de temps faut-il pour mesurer la réussite d'une révolution, il répondait « Oh là là, le temps de l'histoire !» La Révolution française a 2 siècles derrière elle, mais aujourd'hui on croit peut-être beaucoup moins qu'avant à l'efficacité des révolutions pour changer le monde. L'homme, pense-t-on, échoue quand il cherche à introduire brutalement une nouvelle temporalité. Les Français, qui étaient accoutumés à voir en leur révolution la ligne de partage essentielle, en sont un peu troublés. Quelle part de légitimité faut-il accepter de redonner à la culture contre-révolutionnaire qui infuse à bas bruit dans notre société, dans l'uniformité gelée du répertoire politique contemporain, peut-elle faire souffler un peu d'aventure? Jean-Clément Martin vient de diriger chez Perrin. Bonjour Jean-Clément Martin.
Bonjour.
Un dictionnaire de la contre-révolution. Dans la première hypothèse, c'était un dictionnaire des Lumières. D'où ma première question. Est-ce qu'au temps des Lumières, avant que ne commence la révolution en France, il n'y avait pas déjà une contre-révolution?
Ah oui, c'est je vous
remercie. Les contre-lumières.
Ah oui, oui, c'est je vous remercie beaucoup. Puisqu'effectivement, c'est bien le pari, un des paris du livre, de dire qu'on ne peut pas comprendre la révolution sans la contre-révolution, et que c'est le pari du livre qu'il faut comprendre l'un et l'autre pour essayer de comprendre pourquoi l'une et l'autre ont échoué, et surtout comprendre qu'en France, dans les années 1770, mais surtout 1780, c'est bien les opposants à toutes les réformes engagées par le roi qui voulait une régénération, dit autrement, les contre-révolutionnaires, les purs, les durs, qui partiront ensuite en émigration, qui ont fait capoter les réformes et qui ont ouvert la boîte de Pandore qui a créé la révolution ensuite.
Oui, mais en même temps, on peut dire, Jean-Clément Martin, que des penseurs comme Rousseau ont des filiations diverses et que tel ou tel...
Ah oui.
Qui aime Rousseau, le jeune Chateaubriand, oui, par exemple, va se retrouver dans le camp de la contre-révolution. Parce que les cartes sont sans arrêt rebattues à partir de 1789.
Tout à fait. Tout à fait. Et Rousseau, c'est le bon exemple. Rousseau inspire Robespierre, Rousseau inspire Chateaubriand, mais les cartes sont tellement rebattues que, mis à part ceux qui sont, en quelque sorte, tombés, tout petits comme Obélix dans son chaudron, dans la contre-révolution, les autres, ils passeront d'une situation de partisan des réformes à éventuellement une situation d'anti-révolution pour devenir des vrais contre-révolutionnaires et finir on ne sait où.
Alors attendez, anti-révolution, les oui. Auditeurs de France Culture et de France Inter sont très cultivés et
Vincent, oui.
Voici que la même question revient de part et d'autre. Demel, votre invité pourrait-il revenir sur la distinction anti-révolution, vous avez employé
oui,
le
oui,
mot,
tout à fait.
Contre-révolution.
Tout à fait. Tout à fait. Et en 1790, alors que le mot révolution est encore imprécis, qu'on l'emploie à peine, on va se mettre à parler de dérévolution, d'anti-révolution et de contre-révolution. Pour désigner grosso modo la même chose, l'opposition à ce qui se passe.
Ouais.
Bon, et que à partir de 1791, on ne parle que de contre-révolution, qu'à partir de 1792, vraiment, on oppose contre-révolution à révolution, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des passages un peu compliqués, on y reviendra certainement à propos des Girondins ou de Robespierre. Et puis, surtout, le mot anti-révolution disparaît. Et il renaît en 1985, dans un congrès à Rennes, où les historiens qui sont un peu embarrassés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire du peuple des campagnes, qui est quand même un bon peuple, mais qui s'est retrouvé du mauvais côté, inventent l'idée de revenir à anti-révolution.
Résistance populaire à la révolution.
Voilà, pour dire qu'il y a comme démarche.
Ouais.
on monte une marche, on est anti-révolutionnaire, on en monte deux, on est contre-révolutionnaire, et votre mauvais esprit va dire on en monte trois et on se retrouve sur l'échafaud.
Non, mon mauvais esprit va dire que nous sommes peut-être un petit peu compliqués, mais il faut en effet qu'on marque l'épaisseur du souvenir dans cette émission. Et pour être plus simple, je vous propose que dans la première partie, on parle du répertoire des images, des clichés. Vous allez dire, c'est un mot que vous utilisez souvent dans votre dictionnaire de la contre-révolution, des poncifs. Alors, les poncifs naissent des faits du sang versé par les révolutionnaires, le sang des victimes de la terreur.
Citoyenne Grace Georgina Elliott, au nom de la République, je vous arrête. Allez, venez.
Laissez-moi au moins prendre quelques vêtements.
Mais bon, tu vas pas faire ta fière maintenant. Il n'y a plus ni duc ni prince pour te protéger.
Et sans protection, finit la fête. Eh ben, on te cause, réponds.
Ma protection, c'est ma conscience. Je n'ai rien fait.
Si t'avais pas conspiré, tu serais pas là.
Et t'irais pas danser la carmagnole sur la place Louis XV. Nous irons te voir, et ça fera un beau spectacle, ma mignonne. La guillotine, t'en as entendu parler. Jolie musique. Trois petites notes seulement. Clic, clac, boum.
Clic, clac, boum. Clic, clac, boum. Clic, clac, boum.
T'as peur, hein?
Je n'ai pas peur. Je suis innocent, mais vous n'êtes pas mes juges. Laissez-moi.
C'est l'Anglaise et le Duc. Alors, 10 ans après la sortie de ce film, et maintenant que son réalisateur, Éric Rohmer, est hélas disparu, on peut dire qu'il était peut-être un peu contre-révolutionnaire.
Oh non, il était clairement contre-révolutionnaire. Oui,
et il jouait pas. Donc oui, oui. Sur le répertoire des images négatives, oui. Le sang d'une étrangère, ici, parce qu'il n'y a pas eu que des Français, le sang d'une bourgeoise, il n'y a pas eu que des aristocrates, et il aurait pu parler du sang des souverains, versé sur l'échafaud.
Oui, mais ça fait partie de ce grand imaginaire qui est lié à la contre-révolution sacrificielle, qui est condamné d'emblée, qui est en quelque sorte embarrassé là de pratiques de conspiration, de pensée religieuse un peu mystique, et puis d'incapacité au moins au début à se faire comprendre du reste de la nation. Mais en même temps, c'est lié aussi, et ça c'est le côté contre-révolutionnaire militant dont on vient de parler. Et puis il y a tous ceux qui, dès 1790, se retrouvent dans la contre-révolution massacrée. Moi je pense aux catholiques tués à Nîmes, donc dès 1790, et puis après à tous ces massacres ou tous ces tueries qui se produisent à partir de 1791 et surtout 1792 dans une grande partie de la France quand on oppose les partisans et les opposants.
La contre-révolution va dans les années suivantes, à partir de la Restauration, et ensuite multiplier les monuments expiatoires à Paris, la chapelle expiatoire près de la gare Saint-Lazare, non loin de Paris, Saint-Denis, qui vont être des lieux de rassemblement.
C'est vrai, mais alors, vous avez parfaitement raison. Avec ceci quand même de particulier, que c'est toujours un petit peu discret quand même, parce que la Restauration va réhabiliter Saint-Denis, certes. Moi, j'aime beaucoup le quartier de la Madeleine, où autour de la Madeleine, il y a tout pratiquement les serviteurs du roi qui ont leur rue.
C'est quand même Malzer,
absolument, c'est extraordinaire. Hein. Bon, mais dès qu'on sort de ces quatre figures très précises, quand on va ailleurs, quand on va, bon, bien sûr, en Vendée, tous les monuments ont été discrets. La monarchie ne les a pas encouragés, les a laissés, et ils ont été édifiés par des souscriptions privées. Et les premiers monuments, c'est que ce sont quand même des fosses de 1795 où les gens vont se réunir autour des reliques.
Mais les républicains savent mieux manier au 19e siècle la mémoire des morts. La mémoire des morts sur les barricades.
Sur les barricades, alors c'est vrai, mais c'est 1830, hein, ouais. Parce que la Bastille a été détruite, et la première réaction autour de la Bastille, ça a quand même été des messes innombrables avant que ça devienne un culte civique. Donc là aussi, ça se met lentement en place, il faut quand même attendre que ça se décante, si j'ose dire, pour qu'à partir de 1830, les choses étant à peu près réglées et les camps définitivement fixés entre ceux qui ont définitivement perdu, les contre-révolutionnaires, et ceux qui ont gagné, les libéraux, les bonapartistes et même certains républicains, on puisse voir à ce moment-là des monuments, des filières, des traditions se mettre en place. Donc le sang de la contre-révolution, il est à la fois discret, toujours présent, toujours évoqué et pas toujours facile à trouver.
Pas si discret que ça dans l'Ouest, Vendée
oui.
Et en Bretagne, où l'épopée contre-révolutionnaire fait partie de la mémoire populaire. Ici, ce sont des films d'un point de vue plus républicain que celui qu'on entendait tout à l'heure. Chouan et Marié de l'an 2 que nous avons allègrement mêlés.
Bientôt, toute la Bretagne se lèvera, se joindra à l'armée catholique et royale contre la Gueuse.
La Gueuse ?
C'est la République, mon amour. Et nous allons l'écraser. Elle aime tellement le peuple qu'elle n'a pas assez de bras pour l'étouffer. Il n'a plus que ses larmes, le peuple.
Il vous tracasse tellement, le peuple.
Et vous, baron ?
Je vais, le peuple.
Mais nous avons besoin de lui. Et lui, le peuple, a besoin de chefs. De grands noms pour l'enflammer.
Tout le pays est avec nous, de Cholet à Fougères. Dans un mois, nous serons 100 000. Nous prendrons Nantes. Dans 6 mois, le drapeau blanc sur Notre-Dame. Et la République meurt. Ouais,
inébranlablement fidèle à nos aïeux, à nos lys et à la Sainte Église. Pour Dieu, pour le roi.
Mes amis, j'étais à Londres il y a 10 jours. J'ai vu le frère du roi. Il m'a donné une lettre qui s'adresse à chacun d'entre vous. Chers et loyaux sujets, la nuit s'est abattue sur nos villes et nos chaumières, mais Dieu verra refleurir nos lys. Déjà le jour se lève aux frontières du royaume. Autriche et Prusse sont en Alsace. Les souverains d'Europe volent à notre secours. La République chancelle sous leurs coups. Mais c'est vous, combattants de Bretagne et de Vendée, qui porterez le coup fatal aux ravisseurs du trône et de l'autel. Vos premières victoires en annoncent de plus hautes. Aujourd'hui, votre devoir est clair. Marchez sur Nantes. Prenez la ville. Donnez un port à la flotte anglaise.
Bon, lui, avec son ton emphatique, c'est un film républicain, c'est l'envoyé des émigrés qui ne sera pas si efficace que ça. Mais il manie le drapeau blanc, il manie le lys, et puis on entend beaucoup de femmes.
Oui, vous avez raison. Et les femmes sont présentes dans toutes les classes sociales, pour une bonne partie, mues pour des raisons religieuses, de résistance à la constitution civile du clergé. Que ce soit, bon, bien sûr, tout le monde pense à l'Ouest, mais il faudrait penser à Lyon, qui est une ville de grande résistance populaire et où les femmes, dans des organisations clandestines, ont été extraordinairement puissantes. Mais je dirais aussi Paris, ce qu'on oublie tout le temps, Paris, ville révolutionnaire, tant qu'on veut. Paris, ville contre-révolutionnaire, peut-être autant. Et là, il y a des gens qui vont traverser la Révolution d'une façon cachée et qu'on retrouvera après 1800, 1810, tout à fait actifs dans la refondation. Alors ça, c'est les femmes populaires. Et les femmes nobles, alors c'est quelque chose d'assez étonnant parce que ces femmes nobles, eh bien, dans un certain cas, elles deviendront des lieutenants, des personnes importantes dans les armées et elles acquièrent une liberté, une indépendance dans les armées contre-révolutionnaires qu'on n'accorde pas aux femmes révolutionnaires parce que les hommes, les sans-culottes, en ont peur. Alors, il y a quelque chose de renversement là. Au nom des traditions, on donne une liberté aux femmes.
Vous me dites sans arrêt que j'ai raison. Est-ce que j'ai raison, Jean-Clément Martin, quand je vous demande si la méfiance de la République devant l'idée d'accorder le droit de vote aux femmes ne vient pas de ce comportement d'un certain nombre de femmes pendant la Révolution?
Alors bon, je vais vous faire plaisir. Non, vous avez tort, parce que non, là, je ne crois pas. Là, tout simplement, c'est vraiment simplement le fait que les hommes ne veulent pas être privés de leurs prérogatives vis-à-vis des femmes, qu'ils considèrent de toute façon révolutionnaires ou pas, contre-révolutionnaires, comme des gens dont il ne faut pas auxquels il ne faut pas accorder d'importance et de liberté. Donc là-dessus, les choses sont claires.
Alors, nous sommes dans un monde de femmes, dans un salon de Valognes, dans le département de la Manche. Il y a Mademoiselle de Spins, il y a Mademoiselle Ursule et Mademoiselle Sainte de Touffe de Lys. Ça ne s'invente pas.
Non.
C'est un roman de Barbet d'Aurevilly,
oui,
qui fait partie de votre dictionnaire de la contre-révolution. Et il y a aussi Mademoiselle de Percy, interprétée ici dans une adaptation de Jean-Louis Borry à la télévision par Alice Sapritch. La défaite est intervenue. La chouannerie a bien pris le relais des Vendémains. Il y a bien eu un débarquement d'émigrés à Quiberon en 95. Mais tout cela a échoué, même si la guérilla dans l'Ouest a perduré jusqu'en 1799.
La Grande Guerre, ainsi que nous appelions la guerre de Vendée, était malheureusement finie.
L'exécution de Charette, le massacre de Quiberon, l'échec de la roche Jacquelin sous les murs de Granville avaient été la mort de nos plus chères espérances. Aucun n'imaginait plus que le sort de la guerre royaliste pût être encore heureux. Jamais depuis la mort du roi et de la reine, et depuis que la guerre civile avait fait deux camps, nous n'avions eu, nous autres royalistes, le courage, sinon plus abattu, du moins plus navré. Si nous tenions encore, c'était pour l'honneur.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La contre-révolution avec Jean-Clément Martin, qui est le coordinateur d'un grand dictionnaire qui vient de paraître sur ce sujet aux éditions Perrin. Le souvenir du chevalier des Touches en Normandie, entretenu par de vieilles filles nostalgiques. Chevalier des Touches, il faisait le passage, c'est le courrier ça, entre voilà, les îles anglo-normandes et la Manche.
Oui,
et il est devenu fou. Et il était quand même très beau, même fou. Et Monsieur de Lescure, qu'on entendait chanter, alors lui, il était très pieux. Il est mort comme un saint à la bataille de Cholet. Bon commandant.
Un petit peu après.
Oui, un peu après. Enfin, il est blessé à mort pendant la bataille de Cholet. C'est puis ça, ensuite, pendant l'exode qui suit, il meurt.
Et il meurt. Et vous me faites penser, avec le Chevalier des Touches, moi j'ajouterais un autre roman qui se passe aussi dans le Paris de la Restauration et ce Paris...
Qui se souvient de
gens très pieux qui vivent reclus et qui s'appelle, c'est un livre de Balzac, L'envers de l'histoire contemporaine. Et en faisant le dictionnaire de la contre révolution, c'était une de mes idées. C'est-à-dire que là, on tresse, on tisse l'envers de l'histoire contemporaine. C'est le même tissu, mais on le voit de l'autre côté.
Et est-ce qu'on ne retournera pas la veste? Je veux dire, est-ce que un jour, l'échec n'aboutira pas dans une autre perspective que celle commune à une réussite? La perspective, allez, on va employer un grand mot, c'est la perspective eschatologique, c'est-à-dire que les choses se réaliseront quand un autre monde,
absolument,
que celui où nous sommes, rejoindra.
Voilà, là vous mettez le doigt sur l'attente importante d'une grande partie de ces contre-révolutionnaires au XIXe siècle. C'est-à-dire, pour une partie d'entre eux, on tombe dans un mysticisme qui fait qu'effectivement il y a l'honneur et les traditions, et on ne déroge pas. Bon, Henri V refusera le drapeau tricolore alors qu'il pourrait prendre le pouvoir, mais il veut garder les traditions. Et puis, alors ça, c'est le côté sur lequel on insiste beaucoup. Moi, je crois qu'il faut insister en même temps, parce que ça va de pair, sur le côté actif de ces contre-révolutionnaires qui rénovent des châteaux, qui rénovent l'agriculture, qui luttent contre le libéralisme, qui éduquent leurs paysans et qui débouchent, en définitive, sur le catholicisme social.
C'est les émigrés de l'intérieur.
C'est les émigrés de l'intérieur.
Qui modernisent l'agriculture.
Mais qui modernisent, et oui. Et une grande partie de l'Ouest de gauche leur doit les racines antilibérales qui ont été semés à la fin du 19e.
Si on parlait un peu quand même, Jean-Clément Martin, des émigrés de l'extérieur, de ceux qui sont partis, allez, faisons une petite géographie sentimentale vers la Russie. Bon, ce n'était pas un pays toujours très facile. Enfin, on y parlait français dans la cour,
absolument,
vers la Scandinavie, vers les États-Unis, il y en a eu.
Chateaubriand,
Talleyrand. Et vers l'Angleterre.
D'abord. Oui, moi j'aurais tendance à insister sur Venise et toute cette région-là. Mais
allons-y pour l'Angleterre. Parce que là, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est une cristallisation, peut-être, des idées que brassent les émigrés avec celles qui naissent dans les milieux intellectuels anglais, dans la considération des événements révolutionnaires français.
Vous faites allusion à Burke.
Voilà, vous avez raison.
Bon, Eh bien, là, j'ai raison aussi.
Vous savez, l'ancien président français, Léon Giscard d'Estaing, a redécouvert le souvenir. Il a consacré un livre. C'était avant qu'il écrive des romans.
J'avoue que je ne savais pas. Donc, je ne l'ai pas lu. Voilà, mon ignorance avouée. Burke.
À la source.
Burke, qui est, en quelque sorte, celui qui va, dès 1790, dire que cette révolution va être un bain de sang, qu'elle va déboucher sur un chaos et qu'il faut revenir à des traditions. Alors le problème de
réflexion
Burke,
sur les révolutions,
voilà,
en France,
qui est un immense best-seller. Enfin, tout le monde le lit. Mais moi, j'avoue que Burke m'ennuie un peu parce que même chez lui, en Angleterre, personne ne le suit. Il veut faire une croisade, le roi n'en veut pas. Ses amis arrivent au pouvoir, ils ne font pas de croisade. Et quand les émigrés sont à Londres, alors c'est vrai que notamment tous les prêtres, on leur donne des subventions, ils vivent assez bien. Mais le problème, c'est que Burke, il est laïque, il veut faire une contre-révolution sécularisée et qu'il n'a pas compris qu'à côté des principes dynastiques, il y a les principes religieux.
Vous rassurez les auditeurs sur le cas de Valéry Giscard d'Estaing. Alors on va braquer les lumières, les contre-lumières sur un autre personnage considérable qui se veut le pendant sur le continent de Burke, qui est serviteur de la dynastie de Savoie. Chambéry
Absolument.
N'est pas en France à l'époque.
Oui,
et qui lui, avant son départ pour Saint-Pétersbourg, choisit un autre lieu d'émigration que ceux que nous avons cités, la Suisse. Alors, on va entendre le comte de Maistre. En fait, on ne va pas l'entendre, on va l'attendre dans un premier temps.
La scène se passe dans l'appartement occupé en 1795 par le comte et la comtesse Joseph de Maistre.
Vous offrirai-je une tasse de thé, monsieur le chevalier ?
N'attendrons-nous point le retour de monsieur le comte de Maistre ?
À vrai dire, mon mari a tant à faire dans Lausanne, tant de démarches et de visites, que je ne sais jamais au juste à quelle heure il rentrera.
Pour me conformer aux convenances, j'aurais dû prévenir à l'avance monsieur le comte de Maistre de la visite.
Vous plaisantez, monsieur le chevalier. Par les temps que nous vivons, avec toutes ces révolutions, ces bouleversements sociaux, tout le monde sait que les règles de l'ancienne politesse ne peuvent plus être suivies à la lettre.
Oui.
On les respecte quand on le peut.
Mais je vois avec plaisir que vous avez pu trouver à Lausanne, malgré le malheur des temps, un logement fort convenable.
Disons assez convenable. Mon mari fut obligé par la Révolution d'abandonner sa maison familiale, ses domaines et ses biens confisqués parce qu'il refusait de prêter serment de fidélité au nouveau régime.
Ah, oui.
Mon mari, en sa qualité de haut magistrat et membre du Sénat de Savoie, voulut dans sa propre détresse servir encore son roi et ses concitoyens.
Je sais que le comte de Maistre a été chargé d'une mission confidentielle auprès des autorités helvétiques.
Il joue à Lausanne le rôle d'un consul. Il protège les sujets exilés de son roi et prend soin d'une quantité de jeunes gens du duché de Savoie qui passent en Suisse et de là en Piémont pour s'enrôler dans les régiments royaux et repousser, si Dieu le veut, l'invasion des armées républicaines.
Alors ça, c'est ce qu'il fait officiellement. Et puis, il commence à écrire à ce moment-là, Joseph de Maistre. Je ne sais pas si sa femme serait convaincue quand... S'il lui disait très clairement, mais vous savez, ma chère amie, ce que nous vivons, c'est régénérateur. C'est un châtiment de la Providence,
c'est
régénérateur.
Ça. Alors bon, Maistre est certainement le plus grand penseur innovateur de la contre-révolution, puisqu'il refuse de revenir à l'ancien régime, puisqu'il estime que la révolution rentre dans le plan de Dieu, et que c'est précisément au nom de ce bouleversement qu'il faut effectivement régénérer par le sang versé toute l'Europe chrétienne. C'est une pensée profondément romantique, c'est aussi une pensée, on peut le dire aussi autrement, qui va jouer davantage au 19e siècle, au 20e siècle dans les esprits, dans les imaginations, qu'elle joue politiquement au moment où il écrit, parce que un, il n'est pas compris, que deux, lorsqu'il défend la primauté du pape, on ne veut pas en entendre parler, et donc il a ce côté tellement provocateur qu'il représente un des courants les plus extrêmes de la pensée contre-révolutionnaire.
Bon, si j'osais encore un grand mot, je dirais que ce n'est pas tellement de la politique, c'est davantage de la métaphysique. Par effet, oui, contraste avec cette révolution dont il peint le caractère tragique. Au sens exact du mot, il y a valorisation du passé. Joseph de Maistre est là, en discussion, il est arrivé, ça y est, dans le salon de Lausanne. Nous sommes toujours dans une émission qui s'appelait « Analyse spectrale de l'Occident », il est en compagnie de Monsieur de Blacas.
La France n'est-elle pas parvenue à donner depuis 5 ans à tous les peuples de l'Europe la commotion la plus effrayante ? Oui, la révolution d'Angleterre a bien coûté la tête du malheureux Charles Ier. Elle a vu éclore les mêmes systèmes et les mêmes fureurs que la révolution française. Mais les pamphlets démocratiques qui parurent alors à Londres n'ont jamais eu l'influence et la portée de ceux des Jacobins. Aujourd'hui, l'Europe est agitée parce que les mêmes systèmes sont prêchés en français. Et que lorsque l'on prêche en français, l'Europe écoute et comprend.
Hélas. Cette éloquence des Français jacobins a pour résultat de dissimuler à l'Europe abusée tout ce qu'avait d'excellent et de bienfaisant notre ancienne constitution française, celle qui régissait notre monarchie traditionnelle.
C'est ce mélange d'autorité et de liberté, de lois écrites et de libres opinions. C'est ce mélange qui faisait croire à l'étranger qu'il voyageait dans un pays 100 fois plus libre que le sien propre.
J'insisterai sur un aspect particulier de cette liberté. Toutes les influences étaient fort bien balancées dans l'ancienne France.
Toutes les influences étaient fort bien balancées dans l'ancienne France. Il y avait des équilibres, tandis que maintenant, il y a une uniformité glaçante, ou bien un clivage terrible, ça, c'est issu de la Révolution. Il faudrait qu'on revienne dans notre assiette, dit au fond... Blacasse.
Oui, et ça, c'est justement...
Avec
ça,
Joseph de Maistre.
C'est ça, justement, qui explique l'échec profond de cette contre-révolution traditionnaliste autour de Charles X, qui n'a pas compris que le monde a changé radicalement, qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est précisément là où Maistre, avec sa vision métaphysique, permet d'aller ailleurs, même s'il n'est pas suivi.
L'autre, en face de Maistre, c'est Blacas. Oui. C'est intéressant, Blacas.
Oui.
Il y a un article, je crois, dans le dictionnaire de la contre-révolution que vous animez chez Perrin. Parce que voilà un homme qui a eu une certaine descendance au XIXe siècle.
Oui, parce que c'est lui qui a été à un moment donné propriétaire de Frochedorf, qui a surtout entouré...
Alors Frochedorf, c'est là où s'installe Henri V, le comte de Chambord.
Enfin,
celui qui porte les derniers espoirs de restauration du drapeau blanc.
Et Charles X, son fils, le duc d'Angoulême, et puis Henri V, c'est-à-dire le fils de la duchesse de Berry. Et moi, je dirais qu'il y a quelque chose là qui mérite quand même... C'est une anecdote, mais bon, vous me permettrez en finissant quand même d'insister là-dessus, parce que c'est quelque chose aussi que... Oui, il faut intégrer dans cet envers de l'histoire contemporaine, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Denis, c'est là où tous les rois de France se trouvent. Et puis, les derniers, Charles X, son fils, qui s'était fait appeler Louis XIX quand même, à la cour de Gorizia, et puis le petit-fils Henri V, comte de Chambord, duc de Bordeaux, eh bien, eux sont enterrés encore dans la crypte de la chapelle des franciscains de Nova Gorizia, c'est-à-dire en Slovénie. Et... quand on rentre dans la crypte, le serviteur à côté duquel on passe, c'est précisément le duc de Blacas.
Bon, alors voilà une cause pour les derniers légitimistes. Mais
qui signe le livre d'or?
Oui, mais ça, c'est une descendance politique partisane des extrémismes résiduels, peut-être. Moi, j'aimerais, pour finir, parce qu'on n'a pas tout à fait fini, Jean-Clément Martin, que... on parle de l'arborescence du 20e et du début du 21e siècle. C'est parlant pour beaucoup, Joseph de Maistre et les contre-révolutionnaires, parce que, comment dire, ça apporte de l'aventure, ça apporte du mouvement face au conformisme. Je parlais d'uniformité. Tocqueville disait, on est dans une société d'uniformité glaçante. Il y a des anti-modernes qui font... qui se répandent un souffle.
Voilà, alors c'est vrai que je vais le dire à nouveau. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'une fois que le courant contre-révolutionnaire majeur est, on peut le dire, mort dans les années 1860-1880, il est en quelque sorte repris, mais repris morceau par morceau, appartement par appartement, j'ai envie de dire ça comme ça, par les anti-modernes, qui ne sont pas des vrais contre-révolutionnaires, par la droite révolutionnaire, mais aussi par tous les courants qui seront les courants fascistes ou ensuite une partie de l'Action française. C'est-à-dire qu'il y aura là toute une série de réfractions, de réutilisations.
Oui, mais ça, c'est des descendances politiques. Mais l'arborescence moderne, la fécondité des anti-modernes. Il y a un professeur le plus podcasté ou presque du Collège de France qui s'appelle Antoine Compagnon.
Absolument.
Et qui dit que c'est extraordinaire d'avoir recours aux anti-modernes.
Pour comprendre le monde dans lequel on vit, bien sûr, parce que c'est Baudelaire, parce qu'il y a là toute cette prise de conscience de la difficulté de vivre dans le monde moderne et la possibilité donnée par les restes de la contre-révolution d'avoir des filtres, des biais. Mais on est là, Et comme
nous sommes, nous, au XXIe siècle, et que nous sommes sur une radio nationale, je finis en citant Frédéric Mitterrand. J'ai trouvé le texte dans votre dictionnaire de la contre-révolution que vous animez, Jean-Clément Martin, c'est chez Perrin. « Les monarchies sont le refuge de l'aventure et de la passion. Je suis royaliste, sans renier ma citoyenneté républicaine. » Et prémonitoire, il a déclaré ça en 1989. Oui, « voilà. Quand nous serons en monarchie, je serai près du trône, comme Talleyrand ici. »
Faudrait que les Français cessassent d'avoir peur ainsi les uns des autres.
Hélas.
Vont-ils continuer longtemps d'avoir peur ?
J'en ai peur.
C'est affreux.
Voilà, Jacques Sigal, la réalisation, Frédéric Martin, Franck Olivard, Meryl Moneghetti dans la préparation, Yann Bouillot et Gilles Gaillard dans la technique. Demain, le passage du muet au parlant.